Amen. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 19. Il arrive des moments dans la vie où on a besoin de faire certaines expériences. Vous le savez, ça ? Il y a des moments où on passe à côté, on perd du temps, mais il y a des moments où le Seigneur voit que nous sommes à notre place. C'est ce qui s'est passé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Nous allons lire du verset 19 au verset 29. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Quelle belle expérience. Quelle belle expérience pour les 10, puis après pour les 11, à 8 jours d'intervalle. Ils étaient à leur place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'il y avait de la crainte, la première expérience, on voit bien qu'ils étaient dans la crainte. La deuxième, moins. Ils étaient dans la crainte, mais ils étaient à leur place. Et c'est déjà bien, même si on est dans la crainte, d'être là où le Seigneur peut nous rencontrer. Par exemple, dans notre chambre. C'est écrit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra quand tu pries. En plus, c'est bien expliqué. Il y a des endroits où Dieu peut nous rencontrer. Thomas, lui, a perdu 8 jours. Vous allez me dire, c'est beaucoup 8 jours ? Aidez-moi quand même. Est-ce que c'est beaucoup 8 jours ? Non, c'est rien. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. On peut perdre 8 jours, on peut perdre 8 heures, on peut perdre 8 semaines, on peut perdre 8 mois, on peut perdre... Combien on peut perdre ? Est-ce qu'on peut perdre 8 ans ? Ben oui, on peut perdre des années. On peut perdre des décennies. On le voit bien dans plein de cas de figure. Et mais là, nous voyons, un, qu'on peut perdre du temps, un, qu'on n'est pas à sa place, un, qu'on peut passer à côté de quelque chose d'important, parce que quand même, Jésus s'approche d'eux, ils ont peur, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas. Vous savez, des fois, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on n'a pas compris les paroles du Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas compris, ne vous inquiétez de rien, qui est tout le temps en train de s'inquiéter, il perd du temps. Ils sont à leur place. Judas n'est plus là, il s'est suicidé, lui aussi, il a plus que perdu 8 jours. Ils sont là, Pierre est là. Tiens, en fait, Pierre, est-ce qu'il avait un précédent avec le Seigneur ? Le Seigneur ne s'est pas occupé de Pierre en premier. Est-ce que Jésus aurait pu rentrer d'une manière beaucoup plus sévère et dire, alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez peur ? Est-ce que Jésus aurait pu leur faire de gros reproches ? Ah oui, de très gros reproches. De très, 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 très gros. Et je crois que ça pourrait être le cas parfois. Le Seigneur pourrait nous faire de sérieux reproches. Mais le Seigneur, il sait. Il voit quand même, si on est à notre place, il sait aussi que les choses changeront. C'est peut-être le cas pour nous ce soir. On est à notre place, dans la maison du Seigneur. On a peut-être commis des erreurs, on a peut-être perdu du temps. Mais une chose est sûre, moi je suis bouleversé. On chantait « Vers Jésus, lève les yeux, il est merveilleux. » Il est beaucoup plus merveilleux que ce qu'on chante. Il arrive et à la place de leur dire « Oui, je vous l'avais dit. Et toi Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches ?» Vous savez, il y aurait pu avoir un gros chapitre de plus. On disait tout à l'heure que dans la Bible, il y a 1189 chapitres. Je pense qu'il y aurait pu en avoir quelques-uns de plus, surtout un pour Pierre. Le Seigneur leur dit « La paix soit avec vous. » Et au cas où ils n'auraient peut-être pas tous bien compris, ils répètent « La paix soit avec vous. » Moi, je suis convaincu que là où est le Seigneur, il y a sa paix, que son nom soit béni. Même si elle pourrait ne pas y être, même s'il y a de la crainte, le Seigneur, avec, je ne sais pas la voix qu'il a utilisée, mais quelle belle histoire. Il entre, vous rendez compte, il entre dans ce lieu, je ne sais pas si vous réalisez, vous croyez que c'est vrai au fait? Vous croyez que c'est vrai? Est-ce que vous réalisez l'expérience que le Seigneur a voulu leur faire faire. Il entre, ils ont dû être tous la bouche bée, c'est obligé. La paix soit avec vous. Ce soir, si le Seigneur entrait dans votre vie, vous savez très bien qu'il vous dirait ce qu'il a à vous dire. Il vous dirait ce que vous avez besoin d'entendre. Il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Il sait exactement ce qui s'est passé dans le cœur de Thomas, dans le cœur des apôtres. Il le sait. Et il va dire à Thomas ce qu'il a besoin d'entendre. Vous avez vu ce qu'il lui dit au verset 27? Il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Je ne sais pas si vous rendez compte. Regarde mes mains. C'est beau cette parole. Est-ce que, franchement, j'y reviens parce que c'est quand même propre aux hommes. Vous ne croyez pas que Thomas, il aurait eu quand même besoin d'un peu plus de reproches? Oui. Nous, on pense que oui. Vous ne croyez pas que Pierre, il aurait besoin de... Ce n'était pas le moment. Pierre va être repris à la troisième fois où Jésus va se montrer. Vous voyez? Il y a un temps pour tout. Tout à l'heure, je le lisais dans l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il faut absolument le comprendre, ça. Il y a des choses parfois qui nous frustrent, ce n'est pas encore le temps de Dieu. La chose qui est essentielle dans ce chapitre, pour nous, c'est d'être à notre place. Thomas n'a pas dit, ah ben oui, mais de toute façon, je ne vous crois pas, je ne croirai pas. Il n'y a pas d'explication. Mais 8 jours après, il est là. Et si nous avons perdu du temps, soyons assez intelligents pour nous retrouver dans sa présence. Dans notre chambre, lorsque vous savez, dans l'église, on a besoin de se retrouver à l'église. Il y a des endroits, on sait que le Seigneur est au milieu de nous. Dès que 2 ou 3 chrétiens se rassemblent entre eux, le Seigneur est là. Quand vous vous enfermez dans votre chambre pour lire la Bible, le Seigneur il est là. Que Dieu soit béni. Et franchement, moi je sais, parce que j'ai tellement vu, on parlait tout à l'heure de prédications culpabilisantes. Bon, quand on a besoin d'être repris, c'est bien que d'être convaincu du péché, oui ou non? Il faut des prédications culpabilisantes ou non culpabilisantes? Il faut les deux. Si je suis coupable, est-ce que c'est bien d'être culpabilisé? Est-ce qu'il y a la bonne culpabilité? Oui, il y a la bonne culpabilité et il y a la mauvaise culpabilité. Eh bien, que Dieu puisse me parler. Que Dieu puisse me montrer les choses. Thomas, regarde mes mains. Si Jésus dit, regarde mes mains, et si ce texte il est dans la Bible, c'est que nous en avons besoin. Il y a un message à saisir dans ces mots. Regarde mes mains. Est-ce qu'il n'y a que Thomas qui a besoin de ce message ou est-ce que nous, les chrétiens, nous avons également besoin de ce message? Mais bien sûr que nous aussi, nous avons besoin de ce message. Regarde mes mains. Alors si vous regardez les évangiles, si vous lisez les évangiles ce soir en rentrant, si vous dites, tiens, ce soir, je vais lire Matthieu, Marc et Luc et je vais regarder toutes les fois où il nous est parlé des mains du Seigneur. C'est une expérience à faire. Toutes les fois que les mains du Seigneur se sont posées sur des malades. une des premières guérisons, c'est juste après le sermon sur la montagne. Il y avait toute une foule qui était bouleversée par le sermon. Et puis, il y a quelqu'un qui a été encore plus bouleversé parce qu'il était peut-être encore plus dans le besoin. Il nous dit qu'il y a un lépreux qui s'est approché de Jésus. La foule suivait. C'est bien de suivre Jésus. Mais vous savez, on peut suivre quelqu'un de loin. Et il nous a dit que le lépreux, il s'est approché de Jésus. Il s'est approché de Jésus. Il a voulu être à côté de lui. Une prédication comme celle-ci, ça peut nous amener à suivre Jésus de loin. À dire que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais ça peut aussi nous amener à nous approcher de lui. Et ce lépreux, ne connaissant pas trop, il a dit quand même, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Vous savez ce que Jésus a fait ? Il a dit, je le veux, sois pur. Et il a posé sa main sur cet homme. Et quand Jésus dit, regarde mes mains, il faut que nous aussi nous disions, mais moi aussi, j'ai certainement besoin de ce message. J'ai besoin que le Seigneur y pose sa main sur moi. Je suis peut-être malade, peut-être pas forcément physiquement, mais des fois là-dedans, je trouve que s'il y a la fièvre, ça peut arriver qu'il y ait la fièvre, le cerveau, non ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, ça vous est déjà arrivé que ça chauffe à l'intérieur du ciboulot ? Est-ce que ça... Eh bien, Seigneur, pose tes mains sur moi. Je veux regarder tes mains. Tes mains, elles ont guéri le lépreux instantanément. Est-ce que ce soir, Dieu peut me guérir instantanément ? Ben oui. Je ne suis peut-être pas lépreux. Un des prochains miracles que Jésus a fait, c'est la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait de la fièvre. Bon, ça n'a rien à voir avec la lèpre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils ont été dans la maison de Pierre et cette femme, elle était couchée parce qu'elle avait de la fièvre. La fièvre, elle nous parle justement de vraiment tout ce qui boue en nous. Des fois, vraiment, c'est vrai, ça chauffe. Et bien, il a dit que Jésus a posé sa main sur sa main. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a guéri cette femme. Regarde mes mains. Vous savez, quand un texte est dans la Bible, il y a un message pour la personne, mais aussi pour nous. Toute l'écriture est utile pour nous convaincre, pour nous aider. Regarde mes mains. Le Seigneur n'a pas fait un grand discours à Thomas sur sa résurrection. Il a juste dit ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule. Alors on pourrait dire quelle est la différence entre l'incrédulité et le doute ? Vous voyez, ça c'est une question qu'on peut se poser dans un cadre où Jésus dit « Regarde mes mains ». Il y a un problème, vous avez vu au verset 27 toujours, il lui parle d'incrédulité. « Ne sois pas incrédule, mais crois ». L'incrédulité, c'est un choix, c'est-à-dire je choisis de ne pas croire. C'est ça l'incrédulité. Il y a un moment donné où il faut faire attention avec le doute. Le doute, c'est pas bien, mais ça, c'est normal. J'ai un doute. J'ai perdu mes clés, parce que ça m'arrive souvent. Je perds mes clés. Je me doute qu'elles sont peut-être dans la veste de tel manteau, de tel costume, ou dans la voiture, je les ai laissées. Le doute, ça peut me pousser à la recherche. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous me suivez ? Le doute, c'est pas forcément, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais ça peut me pousser à la recherche. J'ai un doute, je veux savoir. Tandis que la remarque de Jésus est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Ne sois pas incrédule. C'est-à-dire que Thomas était en train de commencer à basculer dans l'incrédulité. Parce qu'il aurait dû quand même croire aussi les 10 apôtres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui lui ont dit, on a vu le Seigneur. Et lui, là, il a exagéré dans ses propos, mais il était à sa place, gloire à Dieu. Et à un moment donné, il faut faire attention de ne pas basculer dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un choix. Regardez dans l'Apocalypse, on le voit bien à la fin, il y a un texte terrible, Apocalypse 21, verset 8. En plus, ils sont mis au banc des abominables, des débauchés, des magiciens, ils sont mis au même rang. Apocalypse 21, verset 8. Au verset 7, il est parlé de ceux qui vaincront. Et au verset 8, de ceux qui ont fait un choix. Dans la vie, on fait des choix. Tout le temps, on fait des choix. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules,
Pas les gens qui doutent.
Les incrédules, vous avez vu, les abominables, les meurtriers, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Les incrédules, c'est un choix l'incrédulité. Je choisis de ne pas croire. Un athée, c'est quoi un athée? C'est quelqu'un qui a choisi de dire que Dieu n'existe pas. C'est un choix. Et Thomas était en train de basculer, il aurait pu basculer en tous les cas, dans l'incrédulité. Je me rappelle un jour, il y a un monsieur qui m'appelle, il m'appelait de temps en temps. Il m'appelait régulièrement. Et un jour, il a eu l'idée il a eu la mauvaise idée de me dire, monsieur Hugo, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ça, c'est une question qu'il ne faut pas me poser. Et je lui dis, écoutez, vous me demandez, vous voulez vraiment savoir? Oui, je veux savoir ce que vous pensez de moi. J'ai dit, vous êtes un lâche. Il était furieux. Et vous avez vu le texte, comment? Pour les lâches. Les lâches, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à prendre position, qui ne veulent pas prendre position. Mais pour les lâches, c'est un choix, la lâcheté. Je prends pas position. Il y a un moment, parce qu'on peut être neutre toute sa vie. Les lâches, les incrédules, ce ne sont pas des gens qui sont nés lâches, qui sont nés incrédules, qui sont nés débauchés. Non, ce sont des gens qui ont fait un choix. Et à un moment donné, il faut entendre que la solution, elle est là. Regarde mes mains. Si vous avez un problème pour prendre position, regardez les mains du Seigneur. Si vous avez un problème au niveau du doute ou qui vous entraîne dans l'incrédulité, regardez les mains du Seigneur. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Quelqu'un, il est lépreux, il faut qu'il regarde la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur qui le bénira. Quelqu'un, il a de la fièvre, sa tête, elle chauffe à fond. Seigneur, je veux regarder tes mains. Le pouvoir qu'il y a dans les mains du Seigneur. Relisez les évangiles. Dieu peut guérir. Dieu veut guérir. Tout est possible au Seigneur. Mais il respecte notre choix. Il respecte notre choix. Vous savez, moi, ce sont des textes qui m'ont interpellé, ça. Ces textes, mais les lâches, les incrédules. Oui, ce sont des choix. Et cet homme qui était, il n'était pas content. J'ai dit, oui, vous n'acceptez pas le fait. C'est un gars, ça fait, je ne sais pas, mais il est venu pendant des années dans l'église, des années. Et il n'arrive jamais à prendre position pour lui. J'ai dit, vous êtes un lâche. Il faut l'accepter. Et quelques temps après, il m'a dit, oui, je reconnais monsieur Hawk. Bon, il a tout le temps pas pris la décision, mais il avait besoin de l'entendre. On a besoin d'honnêteté. Vous aimez l'honnêteté? C'est important, mes frères et sœurs. Et quand il relisait les évangiles, regarde mes mains, quelle belle parole, regarde mes mains. Alors il y a Rembrandt, je ne sais pas si vous aimez les peintres, mais il y a des peintres qui ont fait des tableaux, des peintres chrétiens. Et Rembrandt, moi j'aime pas ce tableau non plus, mais enfin il montre Thomas qui met le doigt dans la plaie de Jésus. Moi je ne pense pas qu'il l'a fait, je ne suis pas sûr qu'il l'a fait, en tout cas ce n'est pas écrit. Vous l'auriez fait, vous? En fait, est-ce que vous l'auriez fait? Moi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Mais en plus, la plaie dans la peinture, elle n'est pas belle. C'est pas bien. Ça ne me plaît pas. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un moment, il faut revenir au calvaire. Au fait, les mains du Seigneur, ces mains qui ont béni, qui ont guéri, qui ont multiplié, on pourrait parler pendant une heure, que les mains du Seigneur, quand il a pris les pains, les petits poissons, qu'est-ce qu'elles ont fait les mains du Seigneur, que vous le vouliez ou non? Eh bien, elles ont pourvu, elles ont montré sa puissance en multipliant pour nourrir des milliers de gens. C'est pas beau ça? Et on pourrait, sincèrement, on pourrait le faire, vous voyez, d'une manière méticuleuse, d'une manière joyeuse, et dire, tiens, mais qu'ont fait les mains du Seigneur? Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Tout ce qu'il a fait avec ses mains. On pourrait dire, mais ses mains, on va les bénir, on va les embrasser, on va les caresser. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, des mains du Seigneur? Vous les auriez embrassées, non? Aidez-moi. Sérieusement, vous avez vu ce qu'on a fait des mains du Seigneur? Crucifiez-le. Tu te demandes vraiment que je comprends pourquoi la Bible dit se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ces mains qu'on aurait dû embrasser, je ne sais pas moi, on les a crucifiées. C'est pitoyable de voir comment l'homme est méchant.
En tous les cas, nous ce soir, je crois que nous avons un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous béni. S'il y a besoin d'être repris, comme Thomas, avec douceur, ne sois pas incrédule, fais attention. Ne sois pas lâche, apprends à prendre position. Il faut entendre, avec beaucoup d'amour, la parole que le Seigneur doit nous donner. Parce qu'à un moment donné, il faut entendre. Parce que là, c'est pas arrête de douter, Thomas, ça fait un moment. Non, ne sois pas incrédule. Attention, que le doute ne t'emmène pas dans l'incrédulité. Attention, que la légèreté ne nous amène pas dans la lâcheté. Soyons déterminés. Les mains du Seigneur ont le pouvoir de guérir, de restaurer, de pourvoir, de libérer. Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait. Relisons les évangiles s'il le faut. Mais regardons ce que les mains du Seigneur ont fait. Regarde mes mains. Voilà le message dont on a besoin. Les enfants, les petits-enfants qu'il a pris dans les bras. C'est pas, vous vous rappelez quand un jour, Dieu avait béni les grands. Donc il y a des mamans qui ont dit, mais s'il a béni les grands, enfin moi je le dis comme ça, s'il a béni les grands, il peut bénir les petits. Alors il y a des mamans qui ont amené les enfants pour que Jésus les bénisse. Et les apôtres qui étaient super spirituels, ils ont repoussé les mamans. De leur dire, non, ils comptent, les gosses ils comptent pour du beurre, c'est pas la peine. Et puis Jésus a dit, non, laissez-les venir. Laissez venir à moi les petits enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris dans ses bras et il les a bénis. Ce soir, regarde mes mains. Ça veut dire que mes mains sont capables de bénir tous tes enfants. Alléluia. C'est ça le message. Regarde mes mains, c'est pas philosophique. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Peut-être que vous en aurez un jour. Mais regarde mes mains, ça veut dire ton fils, je m'en occupe. Tes enfants, je m'en occupe. Je peux les prendre et les bénir tous. C'est ça que ça veut dire. Regarde mes mains, il faut saisir le message. Des fois, on peut s'inquiéter pour un de ses enfants, parce que justement, on prie pour lui, il empire. Est-ce que ça peut arriver, ça? Mais ça veut dire, regarde mes mains, j'ai le pouvoir de bénir tous tes enfants. Amène-moi-les dans la prière, par la foi. Amène-moi tes enfants. Les mains du Seigneur, regarde mes mains, vous savez, les gens, je suis sûr qu'ils lisent ça, ils captent pas qu'il y a vraiment un message. La main du Seigneur pour bénir nos enfants. Quelle bénédiction, hein? Quel grand, mais nos enfants, mais aussi les grands. Tiens, mes parents, mes grands-parents, mes enfants, oui, je veux les amener au Seigneur. Ces mains qui ont été percées, ces mains qui dégoulinaient de sang, ces mains, ces pieds. Vous vous rendez compte? Moi, quand je lis ce texte, regarde mes mains, je pense quand on l'a crucifié. Seigneur, donne-nous la grâce de voir que tes mains sont puissantes. Parce que ces mains, s'il n'avait pas voulu qu'elles soient crucifiées, qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans le jardin de Gethsémané à Pierre qui commençait à s'inquiéter, d'ailleurs qui a coupé l'oreille d'un serviteur du sacrificateur? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Pierre? Ne puisse pas invoquer mon Père qui à l'instant enverrait 12 légions d'anges. Une légion romaine était composée de 3000 à 6000 soldats. Ça veut dire que dans l'invisible, il y avait 76 000 anges qui étaient prêts à intervenir. Ça, on ne le voit pas. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Surtout quand vous savez que certains anges sont principalement costauds. Très costauds. Ils étaient là dans l'invisible. Un regard de Jésus et tout Jérusalem était rasé. Et Jésus n'a rien dit, il a laissé ses mains se crucifier pour que nous puissions non seulement voir sa bénédiction, sa provision, sa faveur sur nos enfants, nos petits, et sa bénédiction dans plein de domaines, et en plus de ça, son sang qui sort de ses mains et qui nous permette d'obtenir le salut de notre âme. Que son nom soit béni. regarde mes mains. Ce soir, oui, nous regardons les mains du Seigneur. À quoi ça sert un message comme ça? Regarde mes mains. Eh bien, ça sert à réfléchir. Toute la Bible nous demande de réfléchir. C'est pas écrit de réfléchir. L'homme intelligent, il réfléchit. Tiens, je veux m'endormir en regardant tes mains, Seigneur. Je vais relire l'évangile de Luc. Et je vais regarder toutes les fois où il est parlé de tes mains. Quand Dieu demande quelque chose, c'est pour nous faire réfléchir. Et d'une manière intelligente, d'une manière paisible. Quand il est rentré, 8 jours après, il a reproduit la même bénédiction, que la paix soit avec vous. Ils avaient besoin de paix. Thomas avait besoin de paix. De façon, est-ce qu'on va écouter si on a reçu qu'il ne nous donne pas sa paix? Vous savez, quand on n'est pas bien, ça vous arrive de ne pas être bien. Je crois qu'on devrait commencer à dire, Seigneur, que ta paix soit sur moi. Toutes les lettres, toutes, commencent avec cette prière, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. J'ai besoin d'un message. J'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas rester comme ça. Je peux pas. Bon, il y a des gens, des fois ça me fait de la peine, des gens qui me disent, ils ont 50 ans, 60 ans, ils me disent, ce monsieur Gault, j'ai perdu 20 ans de ma vie. J'ai perdu 30 ans de ma vie. Et heureusement que Dieu est patient. Enfin, même si Dieu est patient, c'est quand même dommage de perdre 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Vous ne trouvez pas? C'est quand même dommage de passer à côté, même si la patience de Dieu est notre salut. Regarde mes mains. Ce soir, sache que ce n'est pas dans un discours, justement, culpabilisant à tort, que tu auras la victoire. La victoire, nous l'avons au calvaire. Regarde mes mains. Avance ta main. Avance-toi, approche-toi de lui. Vous savez, un feu, vous êtes déjà approché d'un feu quand vous aviez froid, par exemple? Imaginez, vous avez froid, il fait moins 20, il y a un feu comme d'ici à la, dans le hall. Vous avez froid, et le feu il est à 20 mètres, 23 mètres. À 23 mètres d'un feu, est-ce que vous aurez chaud? C'est impossible. Il faut être à côté. Et c'est une image extraordinaire de s'approcher de ce feu. Il y a des gens qui ont toujours froid spirituellement. Parce que lorsque le Seigneur dit « Regarde mes mains », il est dit « Avance et regarde ». Et si nous ne sommes pas suffisamment réchauffés, ça ne vient pas de la qualité du feu, ça vient de notre éloignement à nous. Que nous puissions réfléchir à la totalité de ce message. Avance-toi à côté de moi. Je me doute que ça devait être extraordinaire, tout le monde devait regarder, mais quelle grâce. Un Seigneur qui ne nous accable pas, qui nous dit, regarde mes mains, avance aussi. Viens vers moi, regarde-moi, j'ai la solution. Et d'après l'histoire, Thomas a évangélisé les Indes, il est devenu un grand missionnaire. Cette expérience l'a bouleversé. D'après, ben ça, c'est pas écrit dans la Bible, hein. Mais en fait, c'est ce qu'on lit dans les livres d'histoire bibliques. Il a évangélisé les Indes parce qu'il a réalisé qu'en s'avançant et en regardant les mains de Jésus, ben là, il termine avec cette confession, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'est-ce qu'il a réalisé? Que Jésus était Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Qu'il est assis sur le trône de la grâce? Et qu'il fait grâce, ou qu'il fait miséricorde, comme le rappelait notre frère Antoine tout à l'heure dans les chants. Il fait grâce, il fait miséricorde, c'est-à-dire qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Là, vous en avez la preuve, ça c'est sûr, que Jésus-Christ était miséricordieux pour tous les apôtres. Pour vous, il est assis sur son trône, et bientôt il va revenir. Là, il est dans son rôle, bon, je ne veux pas en ajouter, mais là, aujourd'hui, Jésus, il intercède pour nous. Est-ce qu'il intercède? Donc, il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il est dans son rôle de souverain sacrificateur. Et que d'à partir du chapitre 13, vous voyez les choses qui changent et il rentre dans son rôle de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Bientôt, Jésus va être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est venu sur la terre comme le sauveur. Il est dans son rôle de souverain sacrificateur. Bientôt, il va être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il vous dit la même chose. Regarde mes mains. Sa main peut tout. Tout. Absolument tout. Dans le ciel et sur la terre, il peut tout. Et il y a un verset qui me revient, c'est dans Esdras, où il est dit que la main du Seigneur, elle est pour bénir ceux qui le craignent. Alléluia. La main du Seigneur, elle est pour bénir ceux qui le craignent. Dieu a une main pour bénir. Vous le croyez? Vous le croyez, ça? On peut le lire, si vous voulez. Alors, Esdras chapitre 8, verset 22. Il faut lire ces versets. Regardez s'il est beau ce verset. Esdras 8, 22. Il y en a d'autres qui me sont venus à l'esprit, mais celui-là est un peu plus imposé. Esdras 8, 22. Regardez s'il est beau ce verset. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Vous aimez pas cette petite partie-là? La main de notre Dieu est pour leur bien. Sur tous ceux qui le cherchent. Dieu a une main, mon frère. C'est pour bénir. Et s'il te dit, regarde mes mains, moi je peux vous dire, faites-en une affaire sérieuse. Sa main, même si les gens l'ont crucifiée, sa main, elle domine le monde. Elle est toujours là. Dieu a une main pour te faire du bien. Vous pouvez dire alléluia. Dans votre cœur. Regarde mes mains. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ce soir, vous allez vous endormir tout à l'heure, peut-être dans une heure, vous serez sous la couette, les yeux fermés dans le noir. Mais vous pouvez dire, Seigneur, merci pour tes mains, pour ta main que tu as pour me bénir. Si Dieu va se mettre en colère parce que les hommes refusent sa grâce, moi je peux vous dire que Dieu a une main pour faire du bien à ceux qui l'aiment. C'est bien que ce soit écrit. Alléluia. On va lui demander de nous aider à réfléchir. Quand vous lisez la Bible, vous savez, moi, on en parlait tout à l'heure, là, moi je lis beaucoup. Mais je peux lire 20 chapitres ou 30 chapitres de suite, mais je peux m'arrêter des fois pendant une heure sur trois mots. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut la peine des fois de dire, Seigneur, aide-moi à réfléchir à un verset. Aide-moi. On lui demande de l'aide. Nous te remercions, Seigneur, pour ta pédagogie, pour ta patience, pour la façon dont tu peux parler à des hommes. Comment tu as su parler aux 10, puis lorsqu'ils étaient avec Thomas. Comment tu as parlé à Pierre quelques jours après. Nous ne voulons pas devenir des lâches, des incrédules, des débauchés, des misérables. Nous voulons rester à l'ombre de ta main. Nous voulons regarder ta main, cette main qui a été crucifiée pour le pardon de nos péchés. Seigneur, merci d'avoir pris des enfants, d'avoir pris le temps de bénir des enfants. Nous en déduisons tous que tu béniras les nôtres, Seigneur, parce que nous les mettons entre tes mains. Nous te remercions pour ta main qui a guéri la belle-mère de Pierre, cette fièvre. Merci pour toutes les fois où nous sommes fiévreux, Seigneur, couchés. Merci pour avoir guéri ce lépreux qui était couvert de lèpre. Il s'est approché de toi. Tu t'es approché de la belle-mère. Qu'importe, en tous les cas, la rencontre s'est faite. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, qu'il y ait cette rencontre entre toi et nous. Que ce soit à l'église ou que ce soit à la maison, comme nous sommes réchauffés quand nous sommes à proximité d'un feu, donne-nous, Éternel, cette intelligence de savoir nous approcher jusqu'à ce que notre cœur brûle au-dedans. Merci pour tes mains, Seigneur. Pardon pour le péché qui a crucifié tes mains. Mais tu savais ce qu'il en adviendrait. Aujourd'hui, nous croyons que tu es assis sur ton trône et que ta main, elle est pour bénir encore ceux qui te cherchent. Merci, Seigneur Jésus, pour le jour où nous aussi, nous verrons tes mains. Nous les verrons pour de vrai. Nous les verrons vraiment, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oui, vers Jésus, nous levons les yeux, nous regardons ce visage couronné de gloire et d'honneur, et par la foi nous regardons tes mains percées, glorifiées. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.